Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Si on croit à la volonté de Dieu, ouais. Si on croit à l'objectif, si on croit en nous aussi d'abord, avant et après tout, il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter là, l'idée d'y aller. Non, c'est le favoritisme, non, c'est... Donc, j'ai découvert que c'était... Oui, j'ai réalisé mon rêve, ça faisait un peu ma fierté, mais il fallait que je passe à autre chose. Suite au décès de mon père, j'étais revenue ici pour l'été. Alors, pour l'été, le premier jour où je suis arrivée, on dirait qu'il m'attendait, tout le monde le disait. Et donc, je l'ai vu quelques heures et il nous a quittés. Et donc, c'était un choc pour moi. Après, même quand je suis retournée là-bas, je continuais à me former, je travaillais, mais il y avait toujours cette remise en cause. Mais qu'est-ce que je suis en train de perdre en étant là-bas?
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte.
Midi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Samira Aftati, experte en accompagnement des organisations, des particuliers et des professionnels, mais aussi fondatrice du cabinet de conseil Cogesor, une longue carrière de l'expérience et de l'expertise. Samira Aftati, bonjour, ravie de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui.
Bonjour Lela Karima, merci de m'inviter. C'est un plaisir de me retrouver avec vous et de partager aussi mon expérience sur Job Story. Merci beaucoup.
Tout le plaisir est pour moi, Samira. Alors en premier lieu, question de contextualiser un peu notre discussion. Est-ce qu'on peut dire que vous avez choisi votre carrière ou c'est plutôt elle qui vous a choisi?
Je dirais que c'est moi qui ai choisi depuis le début. Je me fixais un objectif. Une fois atteint, il fallait que je passe à un autre objectif. C'est vrai que tout au long de ma carrière, il y avait certaines contraintes qui m'ont pas obligée à faire un choix, mais qui m'ont pressée, en fait. Ils m'ont poussée à avancer et à aller vers ce choix que je faisais attendre au fur et à mesure. J'expliquerai ça un peu plus tard au niveau de toutes les expériences. Donc, c'est beaucoup plus, c'était des choix. Mais des fois que je prenais avant terme, donc sous certaines contraintes.
Donc c'était des situations qui se présentaient à vous et vous preniez des choix donc par rapport à cela.
Exactement.
Et donc vous avez fait aussi, Samira, des études en sciences économiques et récemment en psychologie, entre autres.
Oui.
Et par la suite, comment est-ce que les choses se sont enchaînées pour vous? Donc une fois vos études terminées, vos premiers pas dans l'univers pro, comment ça s'est passé? Vous avez fait quoi comme spécialité? Quelles ont été les missions qui vous ont été attribuées dans ce sens? Voilà, vos premiers pas tout simplement dans l'univers pro.
D'accord. Alors, il y avait plusieurs premiers pas, en fait, parce que comme j'ai changé un peu de... Je n'ai pas changé, j'ai été dans la continuité, je dirais, mais il y avait plusieurs premiers pas. Le premier pas que j'ai fait dans la profession ou dans le monde professionnel de manière générale, c'était une expérience bancaire. C'était un rêve d'enfance d'intégrer la banque et de devenir directrice de banque.
D'accord.
Donc, j'y ai intégré, j'y suis restée 4 ans en tout et pour tout. Mais dès les premiers mois, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas le monde professionnel dont je rêvais. Vous savez, comme premier emploi, on idéalise un peu l'environnement professionnel comme pas mal de jeunes aujourd'hui. Donc j'ai découvert que c'était, oui, j'ai réalisé mon rêve, ça faisait un peu ma fierté, mais il fallait que je passe à autre chose. Deux ans après, c'est là où s'est apparue l'immigration au Canada, ça a coïncidé avec les années 98. Et j'ai fait mon immigration au Canada, je suis partie fin 99. C'était vraiment pour l'aventure, entre guillemets, mais pour un nouvel horizon. Je dois avouer que là, entre parenthèses, je suis quelqu'un qui prend des risques. Je suis une grande aventurière. Donc, une fois au Canada, j'ai bricolé avec des petits boulots en attendant de me faire inscrire dans des universités canadiennes. J'ai eu l'inscription et j'ai entamé une maîtrise en sciences économiques. Et j'ai fait après un certificat en gestion de risque, j'ai été certifiée risk manager à l'échelon nord-américain. Et tout au long de mon cursus scolaire là-bas, je faisais des stages parce que j'avais opté pour un programme qu'on dit coopératif. Ça veut dire alternance entre études et stages.
D'accord.
Ces stages m'ont permis, d'ailleurs, c'était un choix pour ce programme parce que je me disais, en tant qu'immigrante, il fallait que j'accède au marché du travail via un moyen. Et c'était le bon moyen pour moi d'intégrer le milieu professionnel, ce qui était vrai. D'ailleurs, après mon deuxième stage, ça m'a permis d'avoir le premier CDD avec le ministère, un ministère là-bas au Canada.
D'accord.
Et c'est comme ça que se sont succédés après mes expériences professionnelles, mais vraiment sur recommandation, j'avoue que j'ai jamais eu à chercher. Donc, on me recommandait d'un boulot à un autre. En 2002, c'était suite au décès de mon père. J'étais revenue ici pour l'été. Alors, pour l'été, le premier jour où je suis arrivée, on dirait qu'il m'attendait, tout le monde le disait. Et donc, je l'ai vu quelques heures et il nous a quittés. Et donc, c'était un choc pour moi. Après, même quand je suis retournée là-bas, je continuais à me former, je travaillais, mais il y avait toujours cette remise en cause. Mais qu'est-ce que je suis en train de perdre en étant là-bas? Donc, je payais quand même un prix très cher. Oui, c'est une belle vie. C'est un bon pays. On reconnaît la compétence. Ouais. On vous donne les chances, justement, pour prouver vos compétences. Mais il y avait un poids, quelque part, il y avait une frustration de ce que je manquais, de vivre avec ma famille, tout ça, de ne pas honorer mes engagements, ma responsabilité envers ma famille. Mmh. Et donc là, je pensais à revenir, sachant que quand j'ai quitté, je ne pensais jamais revenir en fait pour m'installer.
Mais finalement, ce que vous avez vécu, Samira Ftati, je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront. C'est l'appel de la terre, en fait. C'est notre pays. C'est même si on est... je ne sais pas où, au bout du monde, on a toujours ce petit manque à l'intérieur de nous. Le manque de notre pays, de notre terre, de notre famille. Exact. Donc, je vous comprends parfaitement dans ce sens.
Exactement. En fait, que ce soit l'immigration, ça veut dire le fait de quitter le pays ou d'y revenir, est relatif à certains choix. Aujourd'hui, plusieurs personnes me posent la question, mais pourquoi vous êtes revenu? C'est des choix personnels. Mmh. Aujourd'hui, je ne peux donner de conseils à personne. C'est des choix personnels. C'est des choix personnels qui m'ont permis justement d'aller et de revenir. Mais quand je suis revenue pour des raisons familiales et personnelles. Et là, en fait, c'était ce qui a pesé le pour, parce qu'on fait on pèse le pour et le contre. Vous savez, c'est une balance.
Bien sûr.
Le tout a pesé pour ma famille, pour ma présence ici. J'ai fini par dire, comme vous le dites, personne n'a lieu que dans son milieu. Mm. Oui, c'est vrai que c'est un pays qui m'a ouvert les bras. J'ai eu d'ailleurs ma citoyenneté. Je me rappelle une fois, je l'aurais dit, j'ai dit à un président avec lequel je travaillais, je rentre chez moi. Et il m'a dit, ah bon, parce que c'est pas chez toi ici. Et ça m'a vraiment frappé, quoi. Mais c'est vrai que je me suis dit à la fin, pour moi, ma famille, elle prime. Et je suis rentrée fin 2006. J'ai eu le premier poste après 2 mois que je suis revenue comme directrice financière adjointe. D'accord. Et là, encore une fois, les promotions se succédaient jusqu'à DAP, jusqu'à pôle support, jusqu'à directeur contrôle de gestion. Et sachant que quand je suis rentrée pour ouvrir un cabinet de conseil, parce que je travaillais beaucoup là-bas avec des bureaux de conseil pour des missions bien particulières. Mmh. Mais comme pas mal d'autres personnes aussi qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, il y avait une peur cachée derrière, mais que je me cachais moi-même en me disant « Ah, mais il faut que je me réadapte au marché du travail ici. Il faut d'abord que je me fasse un réseau, etc. » Ça a duré quand même plus que 10 ans. Mmh. Mais c'était des prétextes, c'était une fausse excuse derrière laquelle je me cachais parce qu'il me fallait un courage pour quitter cette zone de confort, de poste de direction avec tous les avantages qui s'y rattachaient. Et c'est là où je disais tout à l'heure qu'il y avait des contraintes qui m'ont poussé à avancer en fait ma décision.
C'est vrai qu'on a tendance à rester dans notre zone de confort et quand on sait qu'on n'est pas bien, par exemple, des fois dans un environnement pour X raisons, mais on s'empêche quand même de sortir de cette zone de confort parce qu'on a peur de la prise de risque. Finalement, tout se passe en dehors de la zone de confort.
Exactement. Et comme vous le dites, il y avait beaucoup de choses qui me poussaient à penser à ces décisions. Je me disais, il faut que je réalise mon rêve. En fait, mon rêve, c'est d'avoir ma propre société de conseil, d'être sélective dans ce que je veux faire, etc. Mais je n'arrivais pas à prendre la décision sur le bon timing pour passer à l'action.
Donc c'est l'entrepreneuriat finalement, c'était une envie d'entreprendre.
Oui. C'est une envie d'entreprendre, c'est une envie de liberté, c'est une envie de devenir indépendante. Ouais. Parce que quand on est en salariat, on est dépendant, qu'on le veuille ou non. Quels que soient les postes de responsabilité que j'ai pu avoir, on reste dépendant quand même au manager, au N. J'étais au N-1, mais il y avait toujours un N, il y avait toujours un système, il y avait toujours un groupe. Donc, c'est cette liberté qu'on me donnait en tant que responsable, mais il y avait quand même... On me serrait les bras quelque part. Ça veut dire que je n'avais pas cette marge de manœuvre dont je rêvais d'avoir. J'étais quelqu'un, comme je disais au début, j'aimais prendre les risques, mais je ne pouvais pas le faire. Ouais. Parce qu'il y avait un entourage quand même qui n'aidaient pas, parce que c'était pas juste la sécurité financière, mais c'était aussi le prestige du poste, c'était la responsabilité.
C'est les titres aussi, mais c'est ça justement l'entourage. Des fois, on en parle très souvent dans Job Story, presque avec tous mes invités. C'est important, et surtout quand il s'agit d'aventures entrepreneuriales, des fois la prise de risque n'est malheureusement pas encouragé, et encore plus quand on a des postes à responsabilité, quand on a un titre, un statut, un salaire. Voilà, ça, il y a plein de paramétrages à prendre en considération. L'entourage, même la famille très proche, peut avoir des réticences par rapport à ce saut entrepreneurial qu'on peut comprendre au final, parce que voilà, ça va d'une bonne intention. Mais ça peut frustrer sur le long terme, parce que la personne reste dans une carrière, même si voilà, il y a le salaire, il y a tout ce qui va avec, mais au fond, elle n'est pas vraiment épanouie, c'est pas ce qu'elle veut faire réellement, quotidiennement. Donc c'est dommage, c'est dommage à un moment
Exactement. Et pourtant, question entourage, j'avais quand même un entourage qui m'aimait inconditionnellement, qui me soutenait inconditionnellement. C'est vrai qu'ils n'étaient pas tout le temps d'accord avec moi sur mes décisions, justement, et sur cette décision précise de quitter le salariat, mais ils me soutenaient parce qu'à un certain moment, c'était devenu, et ça, encore une fois, je suis certaine que plusieurs personnes vont s'y reconnaître, il y a des mots physiques qui vont ressortir. Il y a des expressions qui vont ressortir à travers des mots qu'on va vivre, des maladies. Et moi, c'était sorti à travers des entorses de genoux répétitives pendant 3 ans de suite. Et quand j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui m'arrivait, et j'ai compris qu'en fait, ce que explique aujourd'hui la psychologie, et d'où mon choix ces derniers temps d'aller vers la psychologie, de comprendre beaucoup de choses, c'est que les entorses de genoux, on l'explique comme un refus de dire non quand on a envie de dire, enfin, un refus de dire oui quand on a envie de dire non. Et donc c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'avais envie, et je le disais, le problème c'est que je disais, mais personne n'écoutait, et donc ça me frustrait intérieurement. Volonté de dire non, parce que je voulais que les choses soient mieux, et on m'obligeait de dire oui. Et donc, c'est comme ça que le genou ou le corps vous dit « Non, vous me faites supporter trop de pression. » Basta.
Et c'est pas, vous n'êtes pas sur le bon chemin.
Oui, quand j'ai pris ça, c'était une grande gifle pour moi. Et c'était vraiment, après ma troisième entorse, c'est là où j'ai décidé de quitter. Et j'avais rencontré la personne que j'ai épousée après d'ailleurs. C'est quelqu'un, je dirais, le seul de mon entourage qui comprenait les aléas, en fait, des affaires, de partir en freelance. Mais mon entourage familial, c'était beaucoup plus mes soeurs, mes frères, c'était des personnes qui étaient dans des fonctions, c'était des fonctionnaires, ça veut dire qu'ils étaient habitués à une sécurité financière, et donc ils ne pouvaient pas comprendre ce truc de vouloir laisser des avantages, un salaire et tout ça, et de partir et de repartir à zéro, parce que c'était vraiment un truc de repartir à zéro.
Et bien sûr, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, généralement, c'est repartir à zéro. Et après, voilà, pour ne pas juger justement les personnes qui sont dans le salariat, c'est du cas par cas au final. Il y a des personnes qui sont très bien dans le salariat, voilà, qui se sentent épanouies. Et il y en a d'autres qui ne se sentent pas du tout épanouies, donc ils tentent l'aventure entrepreneuriale, comme ça a été le cas pour vous, Samira. Donc finalement, c'est du cas par cas, chacun son histoire. Vous avez donc fondé Cogessor, cabinet de conseil.
Voilà.
Comment ça s'est passé?
C'est l'abréviation de Conseil et Gestion Stratégique des Organisations. Il y avait des difficultés au début parce que c'est vrai que c'est question de prospection, de se faire connaître encore une fois, de frapper aux portes. Et est-ce qu'on est habitué à aller frapper aux portes? Je n'étais pas un peu le genre au début. Ça s'est passé difficilement, mais j'avais participé avec d'autres cabinets sur pas mal de missions, dont justement celui de mon mari. Et donc, j'ai pu faire des formations. Et c'est par hasard, en fait, c'est en 2014 où je me suis embarquée dans une formation en mentorat par un organisme britannique avec CDG. Et c'est là où, en fait, je ne sais pas comme par hasard, mais je ne sais vraiment, je ne me rappelle même pas comment la fondation, un organisme, une ONG ici au Maroc m'avait appelée pour accompagner des femmes pour la création des activités génératrices de revenus. Et donc, c'est comme ça que mon expérience, en fait, mon aventure dans tout ce qui est accompagnement de femmes, de jeunes, a démarré J'ai pu faire plusieurs missions diversifiées, autant avec des entreprises, mais vraiment à but lucratif, comme avec des ONG pour des missions à but non lucratif.
D'accord.
Mais c'est juste pour revenir un peu, je voudrais revenir sur la question que vous avez dit pour le salariat.
Ouais.
Tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Il n'y a pas ici de mauvais ou de bon.
Ouais.
Ça dépend de la personne.
C'est
juste que pour les personnes qui ne se sentent pas bien, ben, il faut qu'ils reconnaissent que il faut corriger cette situation parce qu'à un certain moment, on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça veut dire que si je n'exprime pas, que je ne me sens pas bien, ben, ça va s'imprimer quelque part aussi au niveau santé.
Vous avez
mais
tout à fait
c'est
raison.
Vrai que c'est lié à, vraiment à la personnalité de tout un chacun. Je connais des personnes qui sont là depuis, dans des postes pendant 25 ans. Ils sont, comme vous dites, très épanouis et c'est tant mieux pour eux.
Voilà, oui, c'est donc, vrai, c'est du cas par cas. Vous avez raison.
Oui. Donc, avec le COGESOR, j'ai fait plusieurs missions diversifiées. J'ai accompagné des jeunes pour l'employabilité. J'adore faire ça, d'ailleurs, entre parenthèses. Je fais beaucoup de vidéos sur mes réseaux sociaux pour tout ce qui est recherche du travail pour les jeunes. J'adore accompagner la femme monoparentale, la femme rurale. Et j'ai eu aussi une expérience à vivre depuis 2015 que je continue toujours. C'était à titre vraiment à temps partiel. Je le faisais les samedis, le week-end, dans un... à titre associatif, mais
d'accord.
qu'aujourd'hui, je développe comme activité. C'est vraiment l'accompagnement des parents dans l'éducation de leurs enfants. Pourquoi encore ce créneau? Parce que durant toute cette expérience que j'ai vécue, il y avait beaucoup de choses aussi qui est sorties comme apprentissage, comme leçon pour moi. J'avais, j'étais une personne, sincèrement, qui vivait beaucoup de colère. Cette colère-là, je voulais la comprendre, en fait. Pourquoi? Et c'était un héritage d'enfance, de beaucoup de traumatismes que j'ai vécu après le décès de ma mère, l'Arhma, elle était décédée alors que j'étais enfant, et beaucoup de choses que j'ai vécues, mais qui m'ont influencée en devenant adulte, qui m'ont influencée même en tant que responsable.
Ouais.
Et quand je révisais mes expériences avec des directeurs et tout ça, je me disais, on ramène chacun, tout un chacun, un héritage. Issu de notre éducation. Si on s'en prend, on s'en rend pas compte,
ça va prendre le dessus et là ça va devenir handicapant, c'est vrai.
Exactement, parce qu'il y a un profil à adapter en fait au monde professionnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont vous dire « Non, mais je suis comme ça ». Oui, d'accord, mais si moi je reste aussi comme je suis, est-ce qu'on va s'entendre? Est-ce qu'on va se comprendre? Sachant qu'on va travailler pour un objectif commun quand on est en milieu professionnel. Et donc, c'est ce qui m'a amenée à aller vers tout ce qui est études en psychologie, développement humain. J'ai fait aussi une formation en psychopédagogie, ça m'est vraiment qui concerne les milieux éducatifs parce que j'avais vu et j'avais aussi sorti de mon expérience que il y a beaucoup de traumatismes qu'on ramène aussi de l'école.
Ouais.
Tout dépend de l'étiquette qu'on posait. Personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai vu d'autres qui l'ont vécu. Quand on vous met l'étiquette de paresseux, de cassoul, de je ne sais pas quoi.
Ah oui, ça reste.
Voilà.
Ça reste
donc,
très longtemps.
Prof, exactement, des profs aujourd'hui, avec tout mes respects aux professeurs, mais qui vont dire aux élèves, oula, la tfatiha, oula, des choses comme ça, ça me frustre. Et donc, j'ai été voir, en fait, c'est quoi les nouvelles méthodes pédagogiques aujourd'hui pour accompagner les gens qui accompagnent nos enfants aujourd'hui.
Et c'est tout à votre honneur. C'est très bien d'avoir justement élargi votre champ de connaissances et d'apprentissage et toujours dans le but d'aider et d'accompagner. Donc tout ce que vous faites à ce jour, finalement, ça a du sens et ça a une certaine cohérence. Tout nous ramène au même point qui est aider, accompagner et aider à développer justement l'autre tout simplement. Et ça commence par les enfants. Vous avez tout à fait raison.
Exactement. Et même pour quand on parle aujourd'hui de l'orientation des bacheliers, l'orientation n'est pas vraiment en bac ou première année bac, mais c'est vraiment du bas âge pour pouvoir accompagner les enfants qui vont devenir l'adulte de demain.
C'est
là où je souligne, en fait, on prépare l'adulte de demain. Qu'est-ce qu'on fait pour cet adulte de demain aujourd'hui? Et c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur parce que je vois aujourd'hui le résultat quand on travaille sur une personne qui va accompagner les enfants, même juste question sensibilisation. Quand on parle des besoins psychologiques de l'enfant et des besoins psychologiques de tout un chacun de nous, ben, y a une prise de conscience et les gens commencent quand même à comprendre ce qui se passe, l'impact sur la personne, l'impact du mot, l'impact du geste, l'impact de beaucoup de choses.
C'est vrai. Et Samira Ftati, on ne peut pas résumer bien sûr toutes vos années d'expérience en une petite discussion d'une vingtaine de minutes, c'est sûr. Mais si vous deviez partager avec nous peut-être votre prochain objectif, je ne sais pas, un rêve que vous voulez réaliser ou concrétiser dans le futur proche ou lointain d'ailleurs, ça serait quoi la suite pour vous, Samira Ftati?
Alors, la suite, c'est que j'ai créé une académie de formation l'année dernière, en 2022, avec plein de programmes nord-américains. Donc, j'ai créé les deux sociétés, une au Canada et l'autre ici au Maroc, avec beaucoup de méthodes pédagogiques nouvelles qui suivent aujourd'hui tout ce que les neurosciences sont là pour nous enseigner. On parle de neurosciences à partir vraiment des dernières années. Même en Europe, on n'en parle qu'après 2010.
Ouais.
Et j'aimerais bien pouvoir faire bénéficier plein de monde de ces programmes-là, que ce soit dans le cadre de la sensibilisation ou le cadre de l'accompagnement. Et je voudrais aider les jeunes. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien que plein de monde puisse l'entendre. C'est que ces jeunes, aujourd'hui, dans nos systèmes, ils se sont bloqués à une croyance. Il faut persévérer. Et je crois une chose qui m'a beaucoup aidée à réussir dans tout ce que j'entreprends, c'est que y a un passage dans le Coran que j'aime beaucoup. Alors, pour ces gens-là, je dis, est-ce que Rabbi, le Dieu est plus puissant ou c'est les personnes qui sont plus puissantes?
C'est Dieu, bien évidemment.
Ça veut dire que si on croit à la volonté de Dieu, si on croit à l'objectif, si on croit en nous aussi d'abord, avant et après tout, il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à l'idée d'elle. Non, c'est le favoritisme, non, c'est cela, mais vraiment, ça demande une fixation d'objectifs, de se faire accompagner quand il le faut, de demander de l'aide, de frapper aux portes et de croire en leur rêve. Je donne mon exemple, je suis partie avant la banque. L'expérience bancaire dont j'ai parlé, j'avais commencé par saisonnière pendant quelques mois. Alhamdoulilah, en 10 ans, j'ai multiplié mon salaire fois 15.
Alhamdoulilah.
Et j'ai été comme saisonnière, ça veut dire comme n'importe qui, j'ai géré jusqu'à 1400 personnes.
Mm.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a un objectif à réaliser, un rêve à réaliser, il faut persévérer.
Ouais.
Et la personne peut y arriver. Et c'est le message que je voudrais transmettre d'après les accompagnements que je fais, d'après l'académie que j'ai créée, d'après les programmes que je suis en train de concevoir. Mais c'est vraiment de donner, pas juste de l'ambition, mais de l'espoir aux personnes qui aujourd'hui, ils en manquent.
Ben, c'est sur ce très beau conseil, Samira Ftati, vous avez tout à fait raison. Je vous rejoins d'ailleurs sur ce point, c'est très important parce que tout part de nous finalement. On a tendance à se cacher derrière les autres, j'ai pas de chance, le hasard, etc. Alors qu'au final, des fois, il suffit de faire une introspection sur nous-mêmes, de se poser les bonnes questions et d'oser prendre des risques quand l'occasion se présente. Et puis Dieu s'occupera du reste. C'est comme ça que ça se passe généralement. C'était un plaisir de vous recevoir dans Job Story,
Samira
Ftati. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Et à très bientôt.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité. Des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast. Un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.